Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Rendez-vous nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com.
Le réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt-à-camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez Réseau ZEC.
Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air. Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells.
Allô tout le monde, heureux de vous retrouver pour une autre émission d'une heure de Rendez-vous Nature. Peut-être que certains auditeurs sont à la chasse du dindon sauvage, mais ils pourront réentendre cette émission sur la page web rendez-vousnature.ca. J'espère qu'ils et elles sont nombreux et nombreuses à chasser ce grand oiseau, dont la récolte est permise au Bas-Saint-Laurent pour la première fois cette année depuis l'introduction du dindon en 2008. La chasse dans la zone 2 est ouverte depuis le 26 avril jusqu'au 7 mai. Un chasseur peut récolter 3 dindons par année, soit 2 au printemps et 1 dans certaines zones à automne. Les captures se répartissent selon les zones de chasse, donc il est bien important d'aller sur le site du ministère ou du côté de la réglementation entourant le dindon pour voir quelles sont les limites de cet oiseau dans les différentes zones du Québec. Et selon nos observateurs, eh bien la chasse s'annonce de bonne à très bonne partout où le dindon est en quantité suffisante pour être chassé. Et si vous êtes à la chasse du dindon ou vous revenez de chasser ce grand oiseau gibier, comment l'éviscérer? C'est la question qui se pose parce que c'est une bonne question puis c'est pas une perdrie. Alors, sur le site de la FEDECP, on retrouve une courte vidéo réalisée avec le chasseur Mario Huot. En peu de mots, avec de très bonnes images à l'appui, Mario explique la bonne technique d'éviscération du dindon sauvage, une technique simple, rapide et efficace. Alors, bonne chasse et surtout bonne préparation et rendez-vous sur le site de FEDECP.com. Et cette semaine, à Rendez-vous Nature, Ottawa prépare un projet pour protéger le loup de l'Est et conséquemment les coyotes. Et si ça passe, les orignaux et les cerfs de plusieurs zones du Québec en seront les victimes. Le biologiste et chercheur scientifique Serge Larivière.
On ne reconnaît pas qu'il y a de regroupement de loups de l'Est présent au Québec. Donc, que le fédéral nous impose une protection d'une espèce qui, premièrement, n'est même pas probablement établie au Québec, ça fait aucun sens. Et les impacts collatéraux, notamment avec la protection du coyote, ça pourrait avoir des impacts très graves sur la gestion de la faune.
La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a vu le jour en 1946 et demeure l'organisme à vocation faunique le plus ancien au Québec. Mais même après 78 ans, on craint pour la relève. Le président de la FEDECP, Marc Renaud.
Mais c'est surtout de dire aux plus vieux, si vous allez chercher de la jeune relève, puis on veut avoir des jeunes de 20, 25, 30 ans, des jeunes pères de famille, faut aussi leur laisser la place, parce que c'est trop facile de dire, viens, je vais te montrer. Mais ces gens-là, cette relève-là a une façon probablement différente de faire, puis c'est dire aux plus vieux, c'est pas parce qu'ils suivent pas ta façon de faire ou ton idée, c'est pas intéressant.
Les aigles du Québec adoptent le slogan politique « Maître chez nous » afin de contrôler leur territoire 12 mois par année. Le numéro 1 des 63 aigles, Guillaume Ouellette.
on a le mandat de s'autofinancer. Mais en s'autofinançant, je veux dire, si on développe nos territoires, si on va montrer au gouvernement qu'on est un réseau solide, un réseau uni, un réseau en développement, pourquoi qu'on est en train de prendre des sports motorisés, prendre les territoires phoniques en otage parce que dans le mandat premier de s'autofinancer, d'encadrer les activités, je la comprends pas, là.
Des trompes de chasse de Rallye Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine et en raison de la hausse récente du nombre de cas d'orage du raton laveur recensé au Vermont près de la frontière avec le Québec, le ministère responsable de la faune procède depuis le 22 avril à l'épandage d'appâts vaccinaux dans 17 municipalités de l'Estrie et de la Montérégie jusqu'au 30 avril 2024. Cette opération veut limiter les risques que l'orage du raton laveur soit réintroduite au Québec et en même temps de protéger la santé de la population humaine. 46 200 appâts vaccinaux seront répandus sur 660 km² de boisés, de berges et de cours d'eau partout autour des champs agricoles et aux abords des poubelles. Alors, cet appât vaccinal ressemble à un genre de sachet de ketchup de couleur verdâtre ou vert kaki. Son odeur sucrée attire les espèces ciblées comme le raton et même la moufette. Le vaccin dans l'appât est sécuritaire tant pour les humains que pour les animaux domestiques. Mais si toutefois votre animal domestique mange un de ces appâts, bien consultez quand même un médecin vétérinaire. La Fondation de la Faune du Québec réalisera 19 projets issus de son programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole pour près de 1 million de dollars. Ce programme soutient des projets de protection et de mise en valeur des habitats phoniques dans les territoires agricoles du Québec. Les projets financés sont en Estrie, dans le centre du Québec, en Montérégie, dans les Laurentides, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans Chaudière-Appalaches. On consulte le site de la Fondation à fondationdelafaune.qc.ca. Et si je vous parle de ce projet, bien, c'est parce que cet argent provient des contributions versées par tous les pêcheurs, chasseurs et trappeurs à l'achat de leur permis. Donc, ça concerne tout le monde. Héritage Faune a procédé au tirage du forfait de chasse pour deux personnes en plan européen sur l'île d'Anticosti d'une valeur de 6 200 $ offert gracieusement par CEPAC Anticosti. Yves Lachapelle, président de la Fondation Héritage Faune, et Philippe Courchaine de la CEPAC ont procédé à ce tirage et le gagnant est Bertrand Tremblay, mais j'ignore sa provenance de la région qu'il habite ou peu importe. Alors donc, le tirage a eu lieu et c'est Bertrand Tremblay qui remporte ce Grand Prix. Et je rappelle qu'Héritage Faune offre diverses bourses et subventions destinées aux associations de chasse et de pêche et aux organismes membres de la FDCP pour réaliser leurs projets. Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, Ottawa se prépare à protéger une espèce de loup menacé qui n'est toutefois pas reconnu du ministère responsable de la faune au Québec, mais qui risque d'impacter nos grands gibiers, cerfs et orignaux. Demeurez avec moi de retour dans quelques minutes.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vousnature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vousnature.ca.
D'ici quelques semaines, vous serez dans un lac ou près d'une rivière à taquiner le poisson. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski. Cannes, moulinets, soies, leurres, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasiné en ligne au www.atelierdumoucheur.com sur le boulevard Jessop à Rimouski.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez aux meilleurs territoires de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com.
Yes, 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 FUWCE accent grave, c'est fucké à l'appareil. Directement de 96.9, CJMD à Lévis, Québec, 418-514.
418-809-6313.
96.9,
l'alternative radiophonique.
Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com.
Le Moment ZEC. Partons à la découverte des ZEC du Québec.
Pour le Moment ZEC de cette semaine, direction la Mauricie pour découvrir la ZEC Chapeau de paille avec Anne-Marie Pratt. D'abord, Madame Pratt, pourquoi votre ZEC est la plus belle du Québec?
La plus belle, la plus accessible, la plus grande, la plus diversifiée en lac, en type de forêt, donc en type de gibier aussi. Principalement, oui, le chevreuil, l'orignal, l'ours, mais oui aussi, on commence même à avoir des populations de dindons montées tranquillement sur la ZEC. Sinon, l'orignal, écoute, la population, malgré tout ce qu'on voit, ce qu'on entend sur les plans de gestion, là, c'est quand même des très bons taux de réussite chez nous, plein de vieux chemins, justement, qui ont été créés par les forestiers il y a jadis, là, parfait pour se promener en VTT à pied, là, pour le petit gibier, la perdrix en masse, du lièvre, on en voit aussi beaucoup. La pêche, écoute, on a plusieurs espèces, ça part de la wananiche, la traditionnelle onde de fontaine, on a même du doré, oui, il y a des super de beaux lacs aussi à Brochet, fait qu'avec la rivière Matawan, là, une belle diversité d'espèces, de la chigan aussi, c'est super. Il y a aussi des beaux lacs ensemencés pour la clientèle journalière. Camping rustique, bientôt on tend à développer là, des plateformes de tentes qu'on appelle. Cette pod qu'on appelle, c'est des petits hébergements ronds là, rustiques sur le bord de la rivière Matawan qui donne accès là, à un beau secteur où on a aussi des lacs de pêche là, qui ont été ensemencés. On a du tout l'a dit, ils sont près de la rivière. Fait que donc, ceux qui veulent essayer la chigan, là, c'est idéal. Là. Des petits pods pour deux personnes et pour quatre personnes, c'est super pour les courts séjours. Les attraits incontournables, bien sûr, la traditionnelle rivière Matawan. On a des rapides exceptionnels. Il y a du rafting qui se fait sur cette rivière-là. Oui, il y a des secteurs plus calmes là, pour la petite famille où est-ce qu'on peut aller canoter, mais se baigner aussi à la belle plage du lac des Aigles. Super de belles plages de sable. La randonnée pédestre chez nous, on regarde pour aménager des sentiers dans les prochaines années. Là, c'est là où est-ce que la ZEC veut s'en aller. Oui, beaucoup de forêts. On a 100 km là, de territoire là, à se promener. C'est super beau. C'est par la route 155, par Shawinigan ou par le lac Saint-Jean. C'est environ à mi-chemin entre la ville de La Tuque et la ville de Shawinigan. Montréal-Québec, autoroute 40, et on prend la 55. L'autoroute 55 vers le nord, elle se transforme toute seule par la 155. Et on arrive au petit village dans le fond de Trois-Rives où ce que le secteur Matawan. C'est un pont payant pour aller sur la ZEC. Là, on tourne sur le pont payant et puis l'entrée de la ZEC est juste de l'autre côté du pont. Le site web de la ZEC, là, vous avez toutes les indications, comment vous rendre, les prix, les espèces et vous voyez même les hébergements là, que nous avons chez nous.
Merci à Anne-Marie Pratt de la ZEC Chapeau de paille en Mauricie. Pour tous les détails, notre site web au rendez-vous naturel. Sur.ca et pour en savoir davantage, réseauzec.com.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour à Rendez-vous Nature, notre merveilleux monde de la chasse est souvent la cible de politiques et de politiciens qui vont à l'encontre des chasseurs et de la grande faune elle-même. Un projet du gouvernement fédéral vise la protection du loup de l'Est, mais pas celle des orignaux et des cerfs de plusieurs zones du Québec, dont les Laurentides, le nord du Québec et même la Côte-Nord, qui seraient impactées par cette décision. Lors du récent congrès de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, le docteur en biologie Serge Larivière, chercheur scientifique et directeur général de l'Office de la sécurité économique des chasseurs CRI, a sonné l'alarme. Serge Larivière, c'est tout frais, on remonte en décembre 2023. Ottawa décide, je dirais tout d'un coup, de déclarer le loup de l'Est comme une espèce menacée. Mais d'abord, c'est qui le loup de l'Est? C'est quoi?
Ben, en fait, le loup de l'Est, quand on dit le loup de l'Est, c'est un loup qui a eu cette nomenclature-là ou ce nom-là parce qu'il occupait le parc Algonquin en Ontario. Donc, c'est un loup qui est plus petit, qui vit dans une forêt mixte, qui se nourrit principalement de cerfs de Virginie et de castors. Et puis, comme il est différent des autres loups, ben tranquillement, on lui a donné le surnom de loup de l'Est.
Mais le loup de l'Est, le loup gris, le coyote de l'Est, c'est d'autant d'espèces hybrides qui forment aussi une génération de loups.
Oui, exactement. Donc, un peu le nerf de la guerre, c'est est-ce que le loup de l'Est, le loup du parc Algonquin, mérite d'être considéré comme une espèce à part? Et ça fait plusieurs années que les Ontariens disent, ben notre loup, il est légèrement différent, il est un peu plus petit, il mange des proies plus petites, donc il mériterait d'être considéré comme une espèce différente. Mais ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue, c'est tout simplement réaliser que les loups qui mangent des proies plus petites ont avantage, d'un point de vue évolutif, à être plus petits en taille. Et puis ces loups-là, tranquillement, commencent à ressembler à des coyotes de l'Est, avec lesquels ils s'hybrident d'ailleurs. Puis ça, c'est vraiment le deuxième nerf de la guerre, c'est que les loups de l'Est, dans le fond, sont en transition évolutive pour la même place que celle du coyote de l'Est, c'est-à-dire un prédateur de cerfs de Virginie.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le parc Algonquin, en Ontario? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça a commencé comment?
La situation du loup du parc Algonquin a duré depuis longtemps. Les chercheurs qui sont là, je te dirais, depuis probablement les années 80 ou 90. Et puis, évidemment, c'est un petit parc entouré d'agriculture, entouré de zones où il y a des chasseurs et des trappeurs. Et quand on mettait des colliers émetteurs sur les loups du parc Algonquin, on réalisait que quand ils sortaient du parc, souvent, ils étaient récoltés, ces loups-là. Okay. Alors, ça a amené les gens à dire, « Ça serait le fun qu'ils meurent pas quand ils sortent du parc. » Fait qu'on... On a tranquillement essayé diverses mesures pour amener la protection des loups du parc Algonquin. Mais la façon la plus sournoise, j'aurais le goût de dire, c'est d'essayer de donner un statut d'espèce distincte. Puis à ce moment-là, ça l'amène une panoplie d'options de protection qui viennent du fédéral. Alors là, ça l'amène, ça force des mesures de protection qui, biologiquement, selon moi, selon mon opinion de scientifique, ne sont pas nécessaires.
Mais quand on dit que Ottawa veut protéger le loup de l'Est, la protection veut dire quoi?
Bien, en fait, donner le statut d'espèce menacée au loup de l'Est, ça veut dire que, premièrement, toutes les activités de récolte deviennent interdites, puis ça devient une espèce menacée. Donc, toutes les activités sur le territoire qui vont avoir des impacts sur les loups, bien, ça va devoir être pris en considération. On peut dire que pour les chasseurs du Québec, perdre la chasse aux loups, perdre la trappe aux loups, c'est pas un gros impact qui se récolte annuellement, environ 600 loups dans la province de Québec. L'impact serait pas majeur. L'impact majeur de ce dossier-là, c'est qu'on dit que le loup de l'Est est impossible à différencier visuellement d'un coyote de l'Est.
Ouais.
Donc la protection des loups de l'Est emmène, par le fait même, la protection des coyotes. Fait que dans le fond, le dossier de quel on parle présentement, c'est la protection des coyotes qui seraient, disons, de l'Outaouais jusqu'à la réserve faunique des Laurentides à l'Est. Donc, toute la bande nord du fleuve Saint-Laurent, la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Et c'est ça qui, non seulement ça fait aucun sens, mais deuxièmement, ça n'accomplit pas l'objectif de conservation des loups qui, en passant, ne sont pas du tout menacés. La population est stable depuis 25 ans. Il n'y a aucune menace à leur survie. C'est une petite population qui ont une génétique un peu différente des loups d'ailleurs. Ça, c'est correct. Et personne s'ostine là-dessus. Mmh. Mais est-ce qu'ils méritent le statut d'espèce distincte? Pas du tout. Puis est-ce qu'ils méritent d'être protégés? Encore moins.
Oui, puis je voyais que même le ministère de la Faune au Québec, il reconnaît pas l'existence du loup de l'Est.
Exactement. Et ça, écoute, dirais pour les auditeurs que pas pour une fois, mais le ministère dans ce dossier-là garde ses pieds bien ancrés dans le sol, garde la tête lucide. Faut vraiment féliciter le ministère de la Faune dans ce dossier-là, parce qu'ils tiennent tête à ce dossier-là, parce qu'évidemment, ça fait pas de sens. Fait que au Québec, on ne reconnaît pas, non seulement, on reconnaît que les loups du parc Algonquin ont une génétique légèrement différente, ça c'est correct, mais on ne reconnaît pas que c'est une espèce distincte. Et ce que je comprends de la position ministère, c'est qu'on ne reconnaît pas qu'il y a de regroupement de loups de l'Est présents au Québec. Donc, le fédéral nous impose une protection d'une espèce que, premièrement, n'est même pas probablement établie au Québec, ça fait aucun sens. Et les impacts collatéraux, notamment avec la protection du coyote, ça pourrait avoir des impacts très graves sur la gestion de la faune.
Ben oui, parce que là, c'est pas juste le loup de l'Est qu'on va protéger, c'est le coyote, puis c'est toutes les autres espèces qui découlent de la fusion du loup de l'Est avec d'autres espèces. Puis je me souviens, moi, à une certaine époque, on parlait du coyote-loup. C'était un mélange du coyote et du loup, puis même un agriculteur m'avait téléphoné, puis j'avais été chez lui, puis j'ai pris une photo de ce qu'il appelait, puis ce qu'on avait appelé un coyote-loup, là, un mélange des deux. Puis c'était une bête qui était énorme, il y avait une tête gigantesque, c'était vraiment là une bête qui se différenciait vraiment du coyote et du loup. Mais là, en protégeant le loup de l'Est, on risque d'ouvrir la porte à une multiplication de nouvelles générations de loups hybrides qui vont impacter les populations de la grande faune du Québec, finalement.
Oui, puis ton point est très bon sur les hybrides, parce que dans le fond... C'est un peu cette situation-là qui, d'ailleurs, curieusement, identifiée comme une menace à la survie du loup du parc algonquin, c'est-à-dire l'hybridation avec des coyotes. Mais dans les études, même en Ontario et même au Québec, on trouve entre 20 et 30 de ce qu'on appelle des hybrides variés. Ça veut dire des croisements entre des loups de l'Est et des coyotes de l'Est. Donc, ton point est tout à fait valide. Il existe des coyotes-loups. Et souvent, à l'œil, ces animaux-là sont pas nécessairement distincts. C'est juste que c'est un mélange des loups de l'Est et des coyotes de l'Est. Et les hybrides sont très communs en nature. Et pourquoi sont communs? Parce que c'est la recette qui marche. Tu sais, je dis souvent, un loup, c'est un excellent prédateur de grand gibier, mais c'est intolérant à l'agriculture et aux êtres humains. Un coyote, c'est très tolérant à l'agriculture et aux êtres humains, mais c'est pas des super bons chasseurs de gros gibier. Quand tu croises un coyote avec un loup, tu crées le prédateur ultime. Un animal qui tolère l'être humain, qui tolère l'agriculture, qui est très efficace en meute et qui devient à ce moment-là un excellent chasseur de cerf de Virginie.
Ah, ça devient une machine à ce moment-là. Mais là, ça risque de se multiplier. Mais là, j'ai cru savoir qu'il y avait eu une genre de consultation. Mais est-ce que les groupes, toi, tu étais au courant, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des groupes qui se sont opposés ou il n'y a seulement que le ministère, puis toi, tu es là pour lever le flambeau? Mais est-ce que des groupes s'opposent à ça actuellement?
Bien, je crois que les fédérations, la période de consultation qui a eu lieu entre novembre et décembre 2023 a été très courte et très rapide. Et ça, ça l'amène la question, pourquoi la période de consultation est si courte? Et souvent, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut pas avoir trop de commentaires ou pas trop d'objections.
Oui.
Et là, la période a eu lieu, les fédérations ont eu le temps de donner une opinion, mais souvent très, très rapide et très succincte. Mais là, le dossier est en attente de la décision du ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, Stephen Guilbeault. Et puis, sa décision a un impact majeur sur le Québec. Alors, présentement, notre ministère de la Faune tient tête au fédéral. Il faut les féliciter, les remercier pour ça.
Oui.
C'est très bon. Et il faut aussi faire des moyens de pression sur le fédéral pour expliquer que cette mesure-là, non seulement elle sert à rien... mais elle a des impacts majeurs sur la gestion de la faune au Québec. Tu sais que la chasse et le piégeage pour les grands canidés, c'est notre seul outil de gestion. Un loup ou un coyote, si c'est pas récolté par l'être humain, ça meurt pas. Ça va mourir de famine à l'occasion, ça va chicaner, il va avoir des mortalités en essayant d'attraper du gros gibier. Mais le principal facteur de gestion, c'est la récolte humaine. Si on enlève ça, on perd un outil de gestion, puis on peut imaginer plein de scénarios. Si un coyote attaque un mouton en Outaouais, le fermier peut pas tuer le coyote parce que peut-être que ce coyote-là, c'est peut-être un loup de l'Est.
Oui, c'est ça.
Et puis, le même loup qui rentre dans le parc des Grands Jardins, dans la réserve faunique des Laurentides pour manger des caribous, est-ce qu'on peut interagir si on sait que c'est un loup menacé qui mange un caribou menacé? Donc, il y a beaucoup de dilemmes idéologiques qui n'ont pas été réfléchis dans ça ou des problématiques de gestion. Mais de toute façon, la conservation des loups, puis ça, je pense que c'est un des points qui est ignoré dans le rapport du fédéral, la conservation des loups n'est pas menacée. La récolte humaine des grands canidés est déjà en déclin par la baisse du prix de la fourrure.
Oui.
La pression de récolte est très basse. On sait que la chasse aux coyotes ou aux loups, c'est vraiment souvent des chasses opportunistes. Donc, il n'y a pas une grande récolte par la chasse. Donc, arrêter la chasse et le piégeage du loup, ça nous enlève un outil. Puis au point de vue de la conservation, ça change absolument rien sur la pérennité des populations de grands canidés. Et même s'ils sont protégés, Ernie, les loups vont continuer de s'hybrider avec des coyotes, puis ça va continuer de faire des hybrides. C'est la recette qui marche, c'est l'hybridation.
Mais est-ce qu'il est trop tard? C'est-tu déjà canné? Ou c'est, est-ce que les chasseurs qui se sentent concernés, comme dans les Laurentides, dans l'Outaouais et tout ça, est-ce qu'ils peuvent encore intervenir? Et puis si oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Pour être honnête, on a manqué la meilleure fenêtre d'interaction qui était celle de la consultation sur cette modification-là à la loi sur les espèces en péril qui avait lieu en novembre et décembre. Mais tant que la décision du ministre Guilbeault n'est pas rendue, moi, je pense qu'une lettre au premier ministre fédéral ou au ministre Guilbeault en disant « Vous avez ce dossier-là dans les mains, mais en passant, nous ne sommes pas d'accord et voici pourquoi nous ne sommes pas d'accord. » Tu sais, c'est facile de dire « On n'aime pas ça », mais il faut expliquer pourquoi puis expliquer les impacts. Puis je pense que présentement, la situation politique au niveau fédéral fait qu'on a peut-être une chance d'avoir de l'écoute. Certainement, ce dossier-là fait pas partie des priorités de conservation. On a assez de problèmes de conservation à gérer en 2024 que de protéger une espèce qui n'en a pas de besoin en s'enlevant un outil qui est essentiel aux biologistes qui travaillent dans le domaine de la faune. Ben, ça fait aucun sens.
Ouais, on voit ce qui se passe avec le caribou. Hein. Ça fait depuis 2019 qu'on attend une décision de Québec. Guilbeault s'est mêlé un peu de ça en faisant pression sur Québec pour en disant, ben, si vous intervenez pas, ben moi, je vais prendre le dossier en main. Mais ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il dit ça, puis on est encore au même point. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Serge Lariviere, même si la date de consultation est passée, les fédérations, quand même, devraient rapidement envoyer un message fort au fédéral, à leurs députés. Puis Serge Lariviere, merci beaucoup de ta participation. Puis on suit le dossier, puis on se reparle. Merci.
Ça me fait plaisir.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
Vos marchands Pro Nature, des conseillers spécialisés, vous attendent en magasin pour vous transmettre leur passion et vous guider dans vos achats. C'est le temps d'en profiter. Visitez notre site web au groupepronature.ca pour trouver votre marchand le plus près de chez vous. Vos marchands Pro Nature, une expérience complète pour la chasse, la pêche et le plein air.
Pour nous joindre par téléphone ou par texto, un seul numéro, 418-903-5969. 418-903-5969. Un seul numéro.
Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour à Rendez-vous Nature, la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs vient de tenir ses assises annuelles sous le thème « Regards sur la vie associative ». Ça m'a surpris un peu parce que pourquoi cette thématique alors que ce sont pas les dossiers phoniques qui manquent et qui préoccupent les chasseurs? Mais ça, je reviendrai. Puis justement, à la FDCP comme ailleurs, bien, je pense que c'est la force du nombre qui fait le poids. Ça prend des associations représentatives des régions fortes pour défendre les intérêts des chasseurs et pêcheurs du Québec. Marc Renault en est à son 4e mandat à la tête de la FDCP. Marc Renault, pour mettre la lumière sur vos associations régionales, j'imagine que c'est parce que la pérennité de certaines ou de plusieurs de vos associations membres vous préoccupe, vous manquez de relève. Qu'est-ce qui se passe?
En gros, oui, vous l'avez bien énuméré. Puis surtout, du fait de la vraie pandémie, les gens se sont un peu démobilisés, donc sont devenus plus solitaires. Et on se rend compte que autant dans les associations que dans nos conseils régionaux, le manque de relève est là. Ça fait plusieurs années. Fait que notre objectif, c'était de redonner des outils supplémentaires à nos associations membres pour mieux se préparer à la recherche de bénévoles, de gens qui d'intérêt, qui peuvent venir donner un coup de main. Parce que les bénévolats, c'est du temps qu'on donne en dehors de nos heures d'ouvrage. Puis c'est non rémunéré, bien évidemment, mais quand même, il faut juste savoir les accrocher, puis c'est ce qu'on voulait montrer à nos membres.
Moi, je connais plusieurs personnes qui ont fait partie d'associations comme la vôtre, puis je pense que le recrutement se fait généralement de bouche à oreille. Un administrateur cible un chum, puis il pense que ça ferait un bon gestionnaire.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Finalement, il embarque avec lui. Mais lorsque vous parlez de donner de nouveaux outils, on sous-entend quoi comme outil?
Ben, vous avez parlé de bouche à oreille des chums. Effectivement, ça amène. Puis mes chums, à moi, savent que je suis un convaincu. Fait que j'ai tout ce qu'il faut, des outils. Mais c'est surtout de dire aux plus vieux, si vous allez chercher de la jeune relève, puis on veut avoir des jeunes de 20, 25, 30 ans, des jeunes pères de famille, faut aussi leur laisser la place, parce que c'est trop facile de dire, viens, je vais te montrer. Mais ces gens-là, cette relève-là a une façon probablement différente de faire. À 30 ans, moi qui en ai 57 présentement, ben, faut que j'accepte que ces nouvelles recrues-là vont venir avec aussi leurs idées puis leur façon de faire. Puis c'est dire aux plus vieux, c'est pas parce qu'ils suivent pas ta façon de faire ou ton idée que c'est pas intéressant. Nous aussi, il faut s'adapter parce que la vie associative suit le cours des années. Puis aujourd'hui, ben, le plus jeune qui rentre puis qui a toujours été avec papa, maman, puis qui s'est dit, on va te montrer comment faire, quand il arrive dans l'association, dans le monde adulte, il a hâte en tabarouette de dire, moi aussi, je sais comment faire, puis moi aussi, je vais avancer. Fait qu'il faut, c'est de donner des dossiers, de faire confiance. Fait que dans ces outils-là, c'est un peu ça qu'on essaye d'aider les plus vieux, hein, ceux qui ont des têtes blanches, de dire, voici, là, les plus jeunes s'en viennent, si tu veux les aider, voici comment tu pourrais les aider au lieu de leur nuire, parce qu'eux, ils veulent pas avoir une barrière, ils veulent s'exprimer à leur façon.
Oui, à leur façon, puis au moment qui leur convient, parce que de plus en plus, gens sont respectueux de leur fin de semaine, de leur soirée, des assemblées générales, des événements de groupe sont peut-être moins ouverts qu'ils l'étaient auparavant. Mais vous-même, vous comptez 25 ans de participation bénévole au sein d'une association régionale. Après ça, vous êtes devenu président provincial, ce que vous êtes depuis 8 ans. C'est parce que c'est le genre d'organisation que lorsqu'on s'embarque dans ces fonctions-là, c'est que c'est pour longtemps, c'est pas juste pour un an, deux ans, c'est à long terme qu'il faut voir ça?
Pas nécessairement, mais des bénévoles, c'est des gens impliqués d'intérêt, c'est viscéral. Oui, quand je regarde mon parcours, je me dis comment ça se fait, puis il y en a qui me le demandent, t'es pas tanné, la flamme est là, puis une fin de semaine qu'on vient d'avoir là, voir tous les bénévoles autour, les gens qui se parlent, parce que vous parliez qu'il y a beaucoup de dossiers phoniques, oui. En fin de semaine, c'est de remercier nos bénévoles, mais on a quand même eu notre assemblée générale, puis les dossiers se jasent, donc que ce soit les plans de gestion comme de l'Orignal, le TGP, le RTLB, c'est tous des passionnés qui sont là, à chacun leur niveau. Il y en a, c'est des TGP, puis il y en a, c'est des chiens, puis c'est des passionnés. Donc, à mon niveau, à moi, c'est pas dur de comprendre pourquoi ça fait au-delà de 25 ans, je suis impliqué dans la fédération, dans mon association. Ça m'anime. J'ai toujours hâte à ce que on parle de chasse, on parle de pêche. Donc, c'est mes activités. Puis en plus, on parle de dossiers de fond. Il n'y a rien de plus intéressant.
Mais avant d'aller de ce côté-là, si on revient donc à cette urgence d'assurer une relève dans vos associations, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un mouvement qui va s'enclencher bientôt, un genre de campagne pour amener de nouvelles personnes à joindre les rangs de la FDCP, des associations régionales, oui?
Vous parlez de campagne, juste notre campagne sur le membership individuel. qui est là pour réunir les adeptes de chasse et de pêche ensemble, puis par le fait même, après ça, de leur démontrer l'importance de s'impliquer aussi dans leurs associations locales. Parce qu'on, plus il va y avoir de membres individuels, plus on va nourrir nos associations. Puis là, les associations auront un travail à faire, c'est de les garder, puis de démontrer l'intérêt à ces adeptes-là, parce que sur le web, on voit de plus en plus ça, les jeunes sont prêts à venir nous supporter de façon individuelle. Là, c'est de trouver des outils pour les amener vers nos associations locales, dire « Hey, toi, Mr. Wells, si vous êtes dans Rimouski, voici l'association locale, regardez les activités qu'ils font. Mm-hmm. » Puis là, ben, c'est de les intéresser, de les ramener à la vie associative. Parce que ça s'est perdu, malheureusement. C'était tellement fort avant, puis le social, on a besoin.
Vous frappez aussi à la porte d'Ottawa concernant le bar rayé. Vous demandez à la ministre Diane Leboutillier de retirer l'espèce parmi les espèces menacées ou qui sont encore en état de fragilité. Puis là aussi, il y a une autre pétition sur le site de la FEDCP. Puis ça, je me souviens, ça fait quelques années, j'ai même fait une entrevue déjà avec votre biologiste sur cet aspect-là, que le barrier est en explosion des populations, mais il se passe rien non plus. C'est comme des dossiers qu'on pousse toujours par en avant, puis il se passe jamais rien.
Bon, quand c'est des dossiers politiques,
c'est ça,
c'est toujours un petit peu plus long. Ouais. Les scientifiques ont bien dit au COSEPAC le barrier, puis c'est de là qu'on est sorti pour appuyer nos dires aussi, puis que les gens se rassemblent. Mais le COSEPAC avait bien dit que cette espèce n'existait plus dans le fleuve Saint-Laurent, dans l'estuaire Saint-Laurent. Donc, il n'y avait plus de raison de protéger. Pour une raison politique, il a été décidé de maintenir, puis de retarder d'un an, puis de redemander au COSEPAC de se confirmer. Vous savez, nous, comme chasseurs, on fait des pressions, on y va sur la science. Mais il y a des groupes, des fois, sur l'autre côté, et sans le confirmer à 100%, mais il y a quand même des groupes qui mettent de la pression pour une protection supplémentaire, des fois inutile. Puis nous, on dit pas. C'est une nouvelle espèce, le COSEPAC l'avait confirmé. Puis là, malheureusement, on est obligé d'attendre une autre année. Mais pendant ce temps-là, le barrelier prend de plus en plus d'expansion.
Ah oui.
La pêche et la chasse, ce sont des bons outils de contrôle de population. Donc, on dit, avant que ça explose, qu'on perde le contrôle. Si on perd le contrôle, quelles seront les conséquences? Pourquoi ne pas garder des captures? Parce qu'il y en a partout, là. Du barrelier, c'est revenu dans ses aires normales. C'est pas nouveau, là. Là, longtemps, il était là. Bon, on redemande. Fait qu'on attend après, oui. Mais malheureusement, quand on parle politique, des fois, ça peut être très, très long.
Ouais, on voit même du barrayer dans la région de Montréal. Il y en a au Saguenay, oui. Puis les gens peuvent pas le pêcher. Puis Ottawa revendique toujours le fait qu'il y a deux populations de barrayer au Québec. C'est curieux, c'est comme si on mettait un filet, là, un barrage entre Rimouski et Forestville, puis on empêche les deux populations de communiquer ensemble. Mais il me semble qu'à un moment donné, avec l'explosion de toute l'espèce, là, il me semble qu'on n'est pas rendu à une seule population, non?
Ça, je pourrais pas dire. Ça, je vais laisser les scientifiques expliquer là, pourquoi. Ce qu'on nous explique, puis c'est la génétique qui fait, mais est-ce qu'ils vont pas dans les mêmes aires de jeu, puis à un moment donné, ils se croiseront pas? Bien, plus la population grossit, plus le risque est grand. Est-ce que c'est dangereux? Il faudrait poser la question aux scientifiques. Moi, personnellement, un bar, c'est un bar. Puis quand je le pêche, je ne ferai pas la différence quand je vais être à la pointe de la Gaspésie, si tu l'estuaire ou la baie des Chaleurs, ça va être un bar.
Oui, parce que les bars qui ont été introduits il y a une vingtaine d'années à peu près du côté de l'ouest de la province, c'est des bars qui venaient de la Miramichi. Alors donc, c'est une population différente selon Ottawa, puis celle du Québec est différente aussi. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de barrage qui sépare les deux. Puis là, avant de vous quitter, il y a un dossier quand même qui titille tout le monde. Moi, je suis rendu tanné d'en parler, je suis rendu à bout de souffle là-dedans, j'ai plus d'arguments, le chevreuil. Alors, les gens réclament l'application de la restriction de la taille légale des bois. Je sais que du côté de la Fédération, vous êtes favorable, mais pour les zones à forte densité seulement. Mais partout au Québec, quand même, les chasseurs le demandent. Puis il y a eu des sondages. Il y en a qui disent qu'ils l'appliquent volontairement, puis d'autres qui souhaitent une réglementation. Mais il reste quand même que si tu l'appliques, c'est parce que tu es favorable à la restriction de la taille légale des bois.
Puis là encore, on s'attendait à des décisions pour l'automne 2024 et il se passe encore rien. Avez-vous des indications de ce côté-là? Est-ce que ça avance ou bien c'est quoi? C'est mort ce dossier-là? Ah, qu'est-ce qui se passe?
J'aimerais bien vous dire qu'on a enfin le résultat. On a parlé avec certaines instances qui étaient présentes en fin de semaine. La réponse qu'on a eue, oui, ça s'en vient, mais ça doit faire 6 mois que j'entends ça. Oui, ça s'en vient. Puis c'est clair que la FEDE, elle s'est positionnée. La FEDE est là depuis le début dans le projet. Puis à un moment donné, on s'attendait peut-être à avoir un projet pilote dans les fêtes dans la cité.
Ben oui.
Mais on s'attendait à avoir une réponse. Et on nous a questionnés, on a questionné nos mondes. Tout le monde connaît le dossier, mais on n'a malheureusement pas encore de réponse. Puis enfin, on s'est fait dire en fin de semaine, vous allez voir, ça s'en vient bientôt. Mais plus le temps avance, moins ça va être applicable pour 2024. À un moment donné, les chasseurs demandent, et c'est partagé. Dans les fortes densités, je pense que c'est clair, aux trois quarts des chasseurs le veulent. Faites densité, c'est 50-50, dépendant des régions, mais au-delà de ça, la FEDE y a toujours cru. Là. On a poussé le dossier avec des intervenants, des chasseurs, parce que la FEDE, ce sont un regroupement de chasseurs et de pêcheurs. On y a toujours cru. On ne dit pas rien qu'on l'avait proposé puis qu'on a voulu avoir un projet pilote. Puis maintenant, on attend les résultats. Puis s'il y a quelque chose qui m'énerve, moi, en tant que président, c'est quand on n'est pas capable de donner des réponses. Parce que les réponses sont sûrement connues au niveau du ministère. On peut de les partager. Qui est partage, puis après ça, on verra comment qu'on fera évoluer le dossier. Mais tant qu'on n'a pas de réponse, on ne peut plus faire évoluer un dossier. Peu importe le dossier. C'est important de savoir. On demande quelque chose de se faire dire, de se faire dire oui, de se faire dire non, pour qu'on puisse après ça préparer nos argumentaires et voir vers quel sens qu'on veut aller.
Oui, alors vous êtes un vrai volontaire qui voulait aller à la guerre, puis une des dernières batailles que vous menez actuellement, c'est celle des abris sommaires en forêt. Là, il y a comme un imbroglio. Le Québec veut rendre les abris, les bois des abris sommaires en bois de villégiature. Il y a une chicane qui est poignée là-dessus, mais vous êtes quand même du côté des détenteurs de bois d'abris sommaires. Et oui. Puis vous rejoignez aussi le regroupement des locataires de terres publiques du Québec qui fait équipe avec vous là-dessus. Alors en espérant que ça va déboucher d'une façon positive. Alors donc, Marc Renault, je dois vous laisser. Alors, Marc Renault, président de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, bien, merci beaucoup et au plaisir.
Au revoir.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
D'ici quelques semaines, vous serez dans un lac ou près d'une rivière à taquiner le poisson. N'attendez pas à la dernière minute. Préparez maintenant votre prochaine saison de pêche grâce aux experts de l'Atelier du Moucheur à Rimouski. Cannes, moulinets, soies, leurres, mouches, accessoires, vêtements pour femmes et pour hommes. Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Reconnu partout au Québec depuis 35 ans, son expertise fait sa renommée jusqu'en Europe. Magasiné en ligne au www.atelierdumoucheur.com sur le boulevard Jessop à Rimouski.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez aux meilleurs territoires de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à CEPAC.com.
CJMD 96.9, Lévis. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
CJMD 96.9, Lévis.
L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule.
Rendez-vous Nature. Une présentation du Réseau ZEC. Le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour au rendez-vous nature, même si l'été approche, le dossier de la libre circulation des motoneiges dans les ZEC continue de faire du chemin, mais pas sur des sentiers toujours carrossables. Les ZEC sont des zones d'exploitation contrôlées et pour les gestionnaires, le mot contrôle n'existe pas que dans le dictionnaire, ni lors des saisons de chasse et de pêche, mais existe à l'année longue, de plus en plus même parce que les ZEC s'ouvrent aux activités hivernales. La ZEC Batiscan-Nelson dans la MRC de Portneuf a réchauffé le dossier le 9 avril en réaffirmant sa volonté de facturer des frais de passage quotidien aux motoneigistes circulant sur son territoire hors du sentier fédéré. Guillaume Ouellette est président de ZEC Québec. Guillaume Ouellette, est-ce que la ZEC Batiscan-Nelson va au bat, comme on dit, pour les 62 autres ZEC du réseau, ou c'est un cas semblable à celui qu'on a vécu il y a 2 ans avec, dans les monts Martin-Vallin, quand il y a eu un affrontement entre la ZEC et les motoneigistes qui étaient de passage sur ce territoire?
Moi, je pense que c'est localisé pour le moment, entre... Comme tu viens de dire, René, ça a commencé un peu sur Martin Vallin, qu'on est en train de une table intersectorielle là-dessus, mais après ça, ça s'est un peu greffé ou ben non, migré là au niveau de la ZEC Batiscan-Nelson, qui a pris une décision de faire une ouverture annuelle dans le but premier de s'autofinancer. C'est le départ de tout avant, tu sais, en offrant d'autres services d'année en année. C'est un développement d'affaires, si on peut dire. Ça fait que pour le bon moment, c'est localisé dans ce coin-là, mais quand même, il y a un mouvement qui utilise le mot provincial.
Mais c'est dans la volonté de ZEC Québec de vouloir vraiment prendre le contrôle du territoire autant en hiver que durant le reste de la saison, parce que comme tu viens de le dire, il y a de plus en plus de ZEC qui s'ouvrent aux activités hivernales, donc ça prend quand même un certain contrôle à quelque part.
Ben écoutez, présentement, on est dans un grand plan de développement du réseau des ZEC pour présenter à nos hautes instances avec une firme spécialisée. Est-ce que nous autres, on a un pouvoir de recommandation au niveau de la, au sein de la Fédération gestionnaire des ZEC? Ce qu'on dit clairement aux ZEC, on peut pas les obliger à opérer à l'année. Par contre, le message que je passe, c'est prenez possession de vos territoires, parce que quand vous êtes pas là, il y a d'autres organismes ou d'autres personnes qui pourrait dire faire des demandes d'exploitation de ces territoires-là en période où on est fermé. Mais écoutez, là, de départ, c'est des territoires de chasse et de pêche. Avec les années, on a créé du récréotouristique, on a créé d'autres choses parce que la demande était là, la nouvelle clientèle, puis il faut s'autofinancer. Mais au départ, il y a une protection faunique puis une gestion faunique de ces territoires-là. C'est de là que ça part, ces territoires-là. Faut jamais, jamais l'oublier. Nos racines sont là.
Mais si je comprends bien, donc, s'il y a certaines ZEC qui ne veulent pas organiser ou offrir des activités hivernales, il y a une période de 4, 5, 6 mois qui deviendrait disponible à une autre organisation, comme un club de motoneige, qui pourrait prendre possession du territoire pour organiser ses propres activités.
Ben, tu sais, il y a des lois là-dedans. Là. Présentement, on est en train de faire un grand débroussaillage de tout ça. Là. Mais effectivement, là, l'affirmation que tu dis, tant qu'à moi, est vraie. Il faut vraiment là, prendre possession de nos territoires. C'est super important. Là. Je me répète, je l'ai dit au Congrès, mais je l'ai dit aux ZEC. Prenez possession. On a le mandat de s'autofinancer. Mais en s'autofinançant, je veux dire, si on développe nos territoires, ça va, l'autofinancement va s'aider. Aider aussi, puis on va montrer au gouvernement qu'on est un réseau solide, un réseau uni, un réseau en développement. C'est important, ça aussi.
Oui, puis qui a fait ses preuves quand même. Les ZEC existent depuis 1978, puis vous avez toujours la bénédiction du ministère pour assurer la gestion des activités en regard de la faune, mais il reste quand même que du côté de Portneuf, le président du club de motoneige de Saint-Raymond semble prendre des choses beaucoup plus au sérieux, puis pour lui, c'est plus urgent d'agir parce que il rappelle dans une lettre aux membres que cette facturation, ben, les propriétaires terriens la refusent complètement et qu'ils pourraient, ces propriétaires, aller jusqu'à interdire le passage gratuit des motoneigistes sur leurs terres et ailleurs au Québec. Donc, l'impact de cette facturation s'annonce déjà provincial.
Ouais, mais écoutez, là, pourquoi que les ZEC sont pris en otage là-dedans? Pourquoi que les ZEC sont pris en otage? Parce qu'il y a un territoire qui décide d'ouvrir hivernalement, puis il y a des gens qui, en tout en leur honneur d'avoir parmi ces années-là, permis à les clubs de motoneige, la FCMQ de passer. Mais pourquoi que ces gens-là sortent et qu'ils prennent les ZEC en otage? Ah, ben là, vous autres, vous,
vous facturez, ben là, nous autres, on va couper de votre passage. Ben, qui servir envers les bonnes personnes et non envers les ZEC. Qui servir envers la SMQ.
Parce que là, ça risque quand même de vous passer sur le dos, parce que s'il y a des coupures d'accès à des terrains privés, à des terres privées, pas des terrains, mais des terres privées partout au Québec, ben il risque d'y avoir en même temps des pertes économiques. Puis on a vu quand même que, à raison des changements climatiques, ben la situation de la motoneige n'avait pas été terrible en 2023-2024. Il y a eu des grosses pertes économiques. L'industrie de la motoneige en a souffert beaucoup. Puis là, il y a cette menace-là là, des propriétaires terriens de refuser leurs terres. Ça risque de prendre de l'ampleur, là.
Y a-t-il quelqu'un qui est capable de m'expliquer pourquoi qu'on veut prendre les ZEC en otage? On est des territoires phoniques. Pourquoi qu'on est en train de prendre des sports motorisés puis de prendre les territoires phoniques en otage parce que dans le mandat premier de s'autofinancer puis d'encadrer les activités, je la comprends pas, là.
Ben moi, il y a un type qui m'a appelé, puis il dit, parce qu'on a déjà parlé à quelques reprises, mais là, ça devient plus sérieux, ce dossier-là, puis il me dit, là, on peut pas circuler dans les pourvoiries, on peut pas circuler dans les réserves phoniques, on peut pas circuler sur les terres privées. Et là, les seules places qui nous restent, c'est les ZEC. Là, on va aller où si on n'a pas ça? On répond quoi à ça?
Est-ce que les ZEC empêchent la circulation motoneige?
Non, ils n'empêchent pas, mais vous devez ou vous voulez exiger des droits de circulation qui sont refusés par les motoneigistes.
Ah, bien là, regarde, écoutez, ça coûte de quoi circuler sur des sentiers fédérés? Bien, vous les ZEC, on s'autofinance, puis à moindre coût en plus, puis on faut. Notre mandat premier, c'est la protection du territoire, il faut encadrer ces activités-là, puis on ferme pas la porte. Il y a même des ZEC qui ont des propres clubs de motoneige à propre, le même ZEC, encadré avec des sentiers balisés, faire attention à la faune et tout ça. Les ZEC sont pas en train de dire qu'ils veulent pas de motoneige. Fait qu'il y a où le problème? Il y a aucune logique à ça.
C'est que vous êtes supporté par l'article 19 du règlement des ZEC qui dit, et je cite, « Une personne ne peut circuler un véhicule dans une ZEC à moins d'avoir payé le montant des droits de circulation établis par règlement de l'organisme. Cette obligation de payer des droits de circulation est imposée par le gouvernement du Québec et non par la ZEC. Ces droits de circulation ne peuvent varier en fonction du moment d'année ou du type de véhicule et la ZEC n'a pas le pouvoir d'exempter un type de clientèle ou de véhicule des droits de circulation qui sont obligatoires. » En d'autres termes, là, je disais tout à l'heure que les ZEC existent depuis 1978, donc ce règlement-là doit exister aussi depuis 1978. Pourquoi l'avoir appliqué maintenant? Pourquoi vouloir l'appliquer maintenant puis pas l'avoir fait auparavant? Puis ce serait déjà un dossier réglé?
Bien, on l'a déjà appliqué. Les ZEC qui ont développé, ils l'appliquent déjà. Là, on a des ZEC qui veulent faire du développement, qui veulent ouvrir à l'année, qui veulent offrir des services. Puis ça, des services, il faudra en revenir aussi. J'entends souvent ce mot-là, là. Mais ça a été appliqué, mais tu sais, quelque part aussi, bon, est-ce que dans le réseau des ZEC, il y a des ZEC qui ont été récalcitrantes ou qui n'ont pas agi selon? Probablement que oui. Je suis persuadé que les ZEC sont pas, puis je le sais, qu'ils sont pas parfaites à 100%. La Fédé est là pour les encadrer, elle est là pour les aider. C'est-à-dire qu'elles sont parfaites à 100%, c'est pas vrai.
Est-ce qu'il y a des discussions de prévues avec, je sais pas moi, entre le réseau ZEC, justement, le club de motoneige de Saint-Raymond, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec? Y a-t-il des discussions qui sont à venir?
La discussion qu'à avoir, là, Ernie, la discussion qu'à avoir, c'est une table intersectorielle dont je pourrais oublier des gens là-dessus, là, mais qu'il y a le réseau des ZEC, la FCMQ, le ministère des Transports, notre ministère, la Fonds de changement climatique, on est là-dessus pour régler le dossier au niveau provincial sur la loi VHR, sur la circulation, sur la loi VHR, sur la circulation des véhicules récréatifs, ouais. On est là-dessus. Mais est-ce que, honnêtement, on va s'assire avec toutes les petites oppositions qui peuvent se greffer à gauche, à droite? Regarde,
Le temps passe vite pour l'entrevue aussi. Donc, c'est un dossier à suivre, celui des motoneiges. Mais il y en a un autre qui préoccupe beaucoup de gens aussi. C'est des chasseurs de rignaux qui attendent toujours la décision de Québec de pouvoir chasser la femelle dans les trois ZEC du Bas-Saint-Laurent, les ZEC Owen, Chappet et Bas-Saint-Laurent. Vous êtes en attente d'une décision qui vient du ministère, mais il y a des rumeurs qui circulent à l'effet qu'il y aurait peut-être un changement de tête au ministère de la Faune. Ça se parle de plus en plus. Le ministre Charest n'était pas au congrès de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs en fin de semaine dernière. Il n'était pas non plus au congrès de ZEC Québec. On s'en va où? Vous en allez où avec ce dossier-là du permis de la femelle orignale? Parce qu'on est déjà rendu au mois de mai, puis habituellement, les tirages ont lieu en juin.
Oui, ben l'année passée, on avait eu la réponse officielle pour l'année respective au mois de mai. J'ai parlé à l'attaché politique du ministre en réunion. On a eu une belle réunion, très réceptive. Ce qui se passe au cabinet, je ne sais pas. Je suis en attente au même titre. Je suis chasseur, fait qu'au même titre que les chasseurs qui t'ont posé la question. Est-ce que le regroupement des 10 territoires, on tient les cordes d'eau serrées, on parle avec notre direction régionale, à toutes les semaines, on fait oui, on est en attente d'une réponse officielle dans ce dossier. Est-ce qu'on a fait nos devoirs? On les a toutes faites nos devoirs, on a toutes démontré que c'était la solution la plus prudente et d'une saine gestion, ce qu'on propose pour cette année. Puis ce qu'on propose pour l'année prochaine, parce qu'on sait bien qu'on aimerait savoir ça pour 2024-2025, pour arriver en 2026 avec le nouvel plan de gestion. Fait que je suis en attente, j'aimerais ça dire des nouvelles. Est-ce que je suis positif? Oui. Est-ce que j'ai eu des nouvelles dernièrement, dans les derniers jours? Non.
Alors, attendons, puis d'ici là, ben, Guillaume Ouellet, président de ZEC Québec, président de la régionale des ZEC de l'Est du Québec et président de la ZEC Bas-Saint-Laurent, mais c'est pas le travail qui manque, les dossiers s'accumulent. Ben, bravo, c'est un beau défi que vous avez, monsieur le président, puis je vous dis à une prochaine fois, puis on va continuer de suivre ça religieusement. Salut, merci
à vous.
Bye.
Bye.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
Vos marchands pro nature, des conseillers spécialisés, vous attendent en magasin pour vous transmettre leur passion et vous guider dans vos achats. C'est le temps d'en profiter. Visitez notre site web au groupepronature.ca pour trouver votre marchand le plus près de chez vous. Vos marchands pro nature, une expérience complète pour la chasse, la pêche et le plein air.
Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
Et voilà, c'est ainsi que j'ai vu et préparé pour vous ce Rendez-vous Nature de cette semaine, le dernier donc du mois d'avril 2024. Ici Ernie Wells qui vous remercie de votre écoute. Et je reviens encore une fois sur la chasse du dindon sauvage parce que celle-ci marque les annales de l'histoire de la chasse au Québec. Et je rappelle que de 2003 à 2013, des opérations d'introduction du grand oiseau multicolore ont eu lieu en Outaouais, au centre du Québec et en Mauricie. Puis le dindon a entrepris de coloniser presque partout au Québec. On observe même des dindons du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui veut dire qu'ils ont survolé la grande réserve des Laurentides et on me rapporte même des observations dans la vallée de Matapédia, donc ça s'en va tranquillement vers la Gaspésie, vers la zone 1. La récolte est passée de 584 dindons en 2008 à 10111 oiseaux en 2023. C'est une chasse de défi dont l'issue est favorable à seulement 35% des amateurs. Mais dans ce cas, on peut avoir plus de plaisir à fouiller qu'à trouver. C'est un oiseau qui a une vue perçante puis une oreille également, alors donc c'est une chasse qui est très difficile. Mais le résultat est très, très valorisant pour le chasseur. Faites attention à vous et à vos proches. Bonne chasse du dindon sauvage et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature.
Pour
Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vousnature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Rendez-vous Nature, une émission produite par Media Miroli, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.